C'est pour ça que, avec tant de contraintes, les gels, le ramassage à la main, un atelier vinicole pour le transformer, des fermentations difficiles, eh bien, on ne peut pas valoriser ça à quelques euros la bouteille. Si on intègre la totalité du coût dans la bouteille, eh bien, voilà, ce n'est pas un produit qui va être vendu en grande distribution ou autre. On s'intéresse à un public bien particulier, où on peut valoriser la bouteille. Exactement. Et le terroir.
Poké de pomme, j'adore ça, donc ça fait du cidre.
Est-ce que c'est bon le cidre ?
Oui.
Bouscule tes sens.
Mais bien sûr, monsieur, quand c'est faire du cidre à l'apéro.
Quand vous avez bu deux, trois coups de cidre et puis une autre bouteille de poêle après, alors là, c'est la grande valse.
L'acidité. La quoi ?
Et enfin, la station régionale de Rennes nous permet de ne pas oublier que si la France est le pays du vin, elle est aussi celui du cidre.
Bouscule tes sens.
Donc nous voilà dans la cave, dans le chai, si on peut appeler ça
c'est
comme
ça. C'est ça.
Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu le processus pour l'élaboration finalement du poiré une fois que les poires sont récoltées, donc manuellement?
Oui, alors les poires sont récoltées manuellement. Dans mes critères de sélection, parce que sur les 300 variétés que j'ai recensées, il y en a 25 que l'on plante abondamment en verger. Les autres, je les garde parce que je sais que c'est pour faire de l'eau de vie ou m'apporter d'autres caractères qui vont sans doute m'intéresser demain, mais que je n'ai pas encore percé l'intérêt de la variété. Mais il y en a une bonne vingtaine, 20-25, que je plante en nombre. Dans mes critères de sélection, l'unique critère, ça a été le côté aromatique, parce que je veux une boisson très aromatique. Donc, une variété qui est très aromatique, mais qui ne se conserve pas bien et qui est pourrie au bout de 3 jours, ça ne me gêne pas. Je la plante pour autant. Même chose pour les variétés qui ne se ramassent pas à la machine. J'aurais peut-être, sur les 25, j'en ai peut-être une qui se ramasse à la machine. Les autres, c'est forcément manuel.
D'accord.
Parce qu'il n'y a pas de tenue, quoi. C'est une poire qui, au bout de 2 jours, au bout de 3 jours, va être complètement blette. On ne peut plus la presser, on ne peut plus rien faire avec. Mais pour moi, ce n'est pas grave. Bon, dans ma logique, c'est le goût. Et puis, s'il y a des contraintes, eh ben, je me plie aux contraintes. Et puis, ce sera mis dans le prix de la bouteille. Donc, voilà ma démarche, en fait. Si bien que j'ai 2 catégories de poires. J'ai des poires qui mûrissent presque dans l'arbre et qui tombent et qui ont une durée de vie très courte de 2 ou 3 jours. Et celles-là, on passe dessous, ramasser tous les 2 jours. Compte tenu de leur durée de vie très courte, ces fruits-là, il faut qu'ils soient travaillés le soir. Donc, on termine à 16h, 17h au plus tard dans le verger et on transforme derrière.
Directement.
Tout à fait. Voilà. Première catégorie de fruits. Deuxième catégorie de fruits, ce sont des fruits qui nécessitent une maturation, voire une surmaturation pour libérer tous leurs arômes. Et là, je les mets sur des clés. On attend la maturité complète. Et quand j'ai le bouquet aromatique par le nez, on sent les arômes qui s'échappent. Et bien, à ce moment-là, on commence le process de transformation. Donc vraiment, 2 catégories de fruits. Je ne me suis pas limité à prendre que les variétés qui se ramassaient à la machine, qui se conservent, etc. Pour moi, ce n'est pas un argument pour faire un verger.
L'aromatique. Primordial.
Voilà, c'est ça. Et donc, les fruits, quand ils arrivent dans le chai, qui sont parfaitement mûrs, alors on a un système de lavage qui est une balnéo, en fait. Parce que la particularité de la poire, c'est qu'elle coule dans l'eau. C'est pour ça d'ailleurs que les cidriers ne s'intéressent pas trop à la poire, parce que tout leur cheminement dans leur process se fait par flottaison. Et parce que la pomme flotte, mais la poire elle coule. Alors il faut un système spécifique, donc c'est une balnéo en inox. Donc c'est des bulles qui viennent sous la nappe d'eau et qui vont porter le fruit en hauteur. Et le fruit se met à tourner sur lui-même et elle se lave sans être frottée en fait.
D'accord, c'est
génial. Faut pas que j'enlève les levures non plus. Donc ensuite le fruit est goûté. Et on arrive dans la râpe. Donc, c'est un système de râpage classique. Ce n'est pas un broyage, hein. c'est un râpage. C'est-à-dire que le fruit traverse une grille et il est impacté sur la grille et il va sortir comme une carotte râpée de l'autre côté. Quoi. Une fois que c'est fait, donc, on va lancer en fermentation. On ne va pas presser tout de suite. C'est-à-dire que là, on est devant une cuve tournante, une cuve en inox hein, qui fait 100 hectos. Donc on va la charger avec l'ensemble de la matière, hein, la matière solide et liquide, et on va la mettre en rotation. Et c'est là qu'on va lancer la fermentation avec les levures indigènes du verger. Donc tout va démarrer de là, en fait. Et on va faire, on va séparer le jus de goutte du jus de presse. Et on ne va pas les mener de la même façon, ils ne seront pas menés dans la même cuve sortis de cette cuve-là. Donc on va tirer à peu près la moitié de jus de goutte, et le jus de presse, ça va être 50% du jus, donc il y aura réellement 50% de pressé, en fait.
D'accord.
On ne presse pas la totalité des fruits, ils sont, le jus de goutte, on le récupère à part. Et ensuite, ça va dans la salle des cuves, où là, on va lancer les fermentations. Et... enfin, la fermentation est lancée, mais on va la continuer sur la durée, sur plusieurs mois, et on va mener différemment les jus de goutte des jus de presse. Et ce n'est qu'ensuite, à la fin, lors de la mise en bouteille, qu'on va faire l'assemblage. Donc on va, c'est pour ça qu'on a autant de cuves. Donc on prend des échantillons de chaque cuve, et on va faire le meilleur assemblage possible en fonction du produit qu'on veut obtenir.
Donc là, c'est le chef de cuisine qui vient assaisonner,
c'est
qui
ça.
Vient goûter, faire
c'est
l'équilibre.
Ça. Tout à fait. Tout à fait. C'est un travail intéressant à faire, d'ailleurs.
Il y a des étapes qui sont vraiment compliquées à gérer par rapport au cidre, peut-être, sur la poire.
C'est... Alors, le cidre, moi, je ne connais pas. Donc, je n'ai pas de recul, même si je m'y intéresse. Hein, pour demain, on va faire un peu de cidre. Mais je ne travaille que la poire. Donc, je sais que c'est plus compliqué, parce que mes collègues cidriculteurs me disent que la poire, c'est vraiment difficile. Comme je disais tout à l'heure, la poire, le poiré, il naît au verger. Et je pense que de tout ce qu'on a fait avant que la poire arrive dans le chai, c'est déjà majeur pour la réussite de la qualité du poiré. Et ensuite, oui, effectivement, il y a c'est des expériences. Hein, c'est au fil des années qu'on s'aperçoit qu'il y a des choses à faire ou à ne pas faire. C'est très compliqué. C'est un produit qui est très dangereux parce qu'il évolue très vite. On peut perdre une quantité de points en quelques jours et c'est la catastrophe. C'est un produit très difficile. Là, je suis d'accord avec ça.
On n'est pas serein, quoi.
Voilà. C'est pour ça que, avec tant de contraintes, les gels, le ramassage à la main, un atelier vinicole pour le transformer, des fermentations difficiles, eh bien, on ne peut pas valoriser ça à quelques euros la bouteille. Si on intègre la totalité du coût dans la bouteille, eh bien, voilà, ce n'est pas un produit qui va être vendu en grande distribution ou autre. On s'intéresse à un public bien particulier, où on peut valoriser la bouteille.
Exactement.
Et le terroir. Sinon moi, je ne joue pas dans cette catégorie-là. Voilà, clairement.
Ça se comprend, ça a une valeur. Et du coup, au niveau du produit fini, est-ce que vous faites plusieurs poirées différents ou vous focalisez vraiment sur une cuvée par rapport à la quantité de poire que vous pouvez avoir?
Alors, ça dépend des années, ça dépend du volume. On travaille sur des variétés spécifiques qui vont nous donner un poiré sec que l'on va mener en fermentation très longtemps, mise en bouteille, dégorgement, voilà. Et on obtient un produit qui est complètement différent, quoi. Mmh. Donc, effectivement, on fait plusieurs gammes en fonction de l'attrait que l'on mesure chez le consommateur pour tel et tel type de produit, quoi. Et on va le développer à l'avenir. Mais il faudra plus de fruits.
Eh oui, forcément.
C'est ça.
Ça va.
C'est
avec.
Ça. Voilà, l'assemblage que l'on a fait l'année dernière, bon, il est encore de qualité. On veut vraiment trouver de l'arôme dans la bouteille, quoi. On veut que les gens qui dégustent une flûte de poiret, qu'on ait l'odeur de la poire et qu'on ait les arômes de poire et qu'on ait une longueur en bouche. Voilà ce qu'on travaille. C'est très très difficile parce que ce sont des arômes qui sont essentiellement volatiles qu'il faut capter et mettre dans la bouteille. Et c'est là toute la difficulté et l'art du maître de chai, c'est ça, hein, c'est de mettre les arômes en bouteille. Enfin, en tout cas, moi, c'est mon objectif.
C'est pas facile, mais c'est avec l'expérience, comme on dit.
C'est ça, apprend. C'est ça.
Donc le fiston a été à bonne école.
C'est ça, et puis il a son expérience à faire aussi. Hein, donc,
aussi, c'est comme ça. Qu'on
voilà, il faudra qu'il mène ses expériences, qu'il note tout. Et puis c'est le cumul de toutes ces expériences là qui font que C'est tout ce qu'on a raté aussi, hein, parce qu'on rate des choses. Hein, et c'est tout ce qu'on a raté. C'est comme ça qu'on apprend. Et c'est comme ça qu'on se fait son école et qu'on se fait son produit. Voilà.
Eh ben, merci beaucoup. J'ai une petite dernière question comme ça. S'il y a une personne que tu aimerais écouter sur ce podcast, qui tourne autour peut-être du cidre, du poiré ou autre, de la restauration, d'un autre secteur, qui t'intéresserait d'entendre discuter sur ce sujet sur le podcast?
Mes collègues spécialistes de la poire, c'est Julien Turel, c'est Éric Bordelais, c'est Jacques Perretas. Voilà, ce sont des gens qui ont une belle réputation, qui savent faire un beau produit. Et voilà, moi, ce sont des gens remarquables.
Très bien.
Voilà.
Le message sera passé.
Merci.
Et entendu. Merci beaucoup.
Bouscule tes sens.
Mais bien sûr, monsieur, quand c'est permis, c'est pas l'apéro.
Quand vous avez bu deux, trois coups de cidre et puis un tas de bouteilles de poêle après, alors là, c'est la grande valse.
L'acidité. La poire.
Et enfin, la station régionale de Rennes nous permet de ne pas oublier que si la France est le pays du vin, elle est aussi celui du cidre.
Bouscule tes sens.